95.7. Voici le commentaire de Bernard Drainville.
Monsieur Drainville, bon matin.
Monsieur Dominique.
On va jaser de laïcité, nouveau rebondissement aujourd'hui.
Ben oui, c'est parce que là, ce qui se passe, c'est que la... Vous savez, la cause est devant les tribunaux. On le savait, là, dès que la loi a été votée, on savait là, que ça allait se retrouver devant les tribunaux. Bon. Et là, ce qui se passe, c'est que t'as l'Association pour les libertés civiles, l'Association nationale des musulmans, enfin le Conseil national des musulmans, qui ont demandé d'abord à la Cour supérieure de suspendre les parties de la loi qui concernent le port de signes religieux puis l'obligation du visage à découvert. Ils ont dit à la Cour supérieure, écoutez, là, ça, c'est tellement grave, là, ça porte atteinte à nos droits, fait que émettez une injonction. Ils ont demandé une injonction. Puis la Cour supérieure a dit non, on n'émet pas d'injonction. La loi a été votée par le Parlement, c'est dans l'intérêt public, enfin, on présume que c'est dans l'intérêt public, etc., etc. Alors, les groupes qui avaient essuyé un premier refus, ont décidé de porter leur cause en appel devant la Cour d'appel du Québec. Et là, ce qui se passe, c'est que la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, Mme la juge Nicole Duval-Hessler, est visée par une plainte. Une plainte du professeur Frédéric Bastien qui dit qu'elle a manqué à son devoir de réserve, qu'elle a manqué à son devoir d'impartialité. Pourquoi? Alors là, il amène un certain nombre d'éléments d'information. Il dit d'abord que la juge va se présenter la semaine prochaine devant un groupe qui s'oppose à la loi 21. Elle s'en va parler devant un groupe qui est contre la loi sur la laïcité, alors qu'elle-même doit présider l'appel, la décision en appel. Fait qu'il dit, garde, ça n'a pas de bon sens. Puis l'activité est payante. Bon. Après ça, il dit qu'elle s'est déjà prononcée dans certains écrits contre ceux qui critiquent le multiculturalisme. Bon, puis il y en a pas mal qui pensent que la loi 21, c'est une vision qui s'oppose au multiculturalisme, en tout cas qui propose une autre façon de vivre ensemble. Mm-hmm. Alors, veut pas, quand la juge dit le multiculturalisme, dans le fond, ceux qui s'y opposent sont dans le tort, ben ça pourrait laisser entendre qu'elle a un préjugé favorable contre une loi comme celle de la loi 21 qui vient en contradiction avec le multiculturalisme. Bon. Mais là où la juge s'est vraiment pas aidée, c'est lors de l'audience sur l'appel, fin novembre, quand elle a dit que la loi 21 était une réponse aux allergies visuelles que certains éprouvent ou pourraient éprouver à la vue de signes religieux. C'est comme si elle disait que ceux qui sont mal à l'aise avec le port de signes religieux, par exemple chez une enseignante, sont un peu malades. Ils ont des allergies visuelles. Tu comprends? Venant d'une juge qui doit être impartiale, c'est comme si elle disait, dans le fond, si vous êtes favorable à la loi 21, il y a quelque chose d'un petit peu capricieux puis insignifiant dans votre façon de voir les choses. Vous souffrez d'allergies visuelles.
Mais là, c'est embêtant de dire à cette personne-là, est-ce qu'elle va être capable de faire abstraction de ses convictions personnelles et d'être impartiale à 100%? Là?
Mais c'est ça le problème. Puis il faut, rappelez-vous, il faut pas juste qu'il y ait impartialité. Il faut qu'il y ait apparence d'impartialité également. Puis là, oui. Visiblement, ça devient de plus en plus compliqué. Et là où vraiment elle s'est mise dans le trouble, c'est que, ça s'ajoute au dossier, c'est qu'elle a rencontré les avocats des deux parties cet été pour préparer donc l'appel, la cause. Et là, elle leur a dit, vous savez, elle dit, en première instance, devant la Cour supérieure, la cause n'a pas été plaidée en fonction de l'égalité homme-femme. Puis vous devriez peut-être y penser de la plaider en fonction de l'égalité homme-femme parce que la clause dérogatoire ne s'applique pas à l'égalité homme-femme dans la charte. Ça s'applique à la liberté religieuse, mais pas à l'égalité homme-femme. Dans le fond, elle était comme en train de suggérer aux avocats, aux avocates qui contestent la loi, un chemin pour arriver à leur fin. Parce que je vous le rappelle, dans la loi qui a été votée par le Parlement du Québec, là, par l'Assemblée nationale, on a introduit la clause dérogatoire qui est supposée la mettre à l'abri d'une contestation devant les tribunaux, sauf si c'est plaidé en fonction de l'égalité homme-femme à laquelle la clause ne s'applique pas. Fait que là, elle était comme en train de dire, dans le fond, voici comment vous pourriez vous y prendre. Et c'est très inhabituel, ça, parce qu'habituellement, devant la cour d'appel, ce qui est plaidé, c'est C'est d'abord ce qui a été plaidé en première instance. Tu peux pas arriver en appel puis plaider quelque chose qui n'a pas été plaidé en première instance. Tu comprends-tu?
Oui.
C'est un appel. T'es supposé plaider, par exemple, une erreur de droit dans le premier jugement. Mais elle, c'est comme ça disait, plaider autre chose que ce qui a été plaidé devant la Cour supérieure. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a une plainte contre elle. Bastien, puis là, il y a beaucoup d'autres citoyens qui ont décidé de s'en mêler puis de déposer une plainte, eux autres aussi. Ils soumettent qu'elle devrait se récuser, qu'elle devrait se retirer de la cause parce qu'elle n'a pas l'impartialité, puis elle n'a pas voulu, puis elle n'a pas fait preuve du devoir de réserve voulu pour bien juger de cette cause-là.
Mais au moins, il y a une chose, par contre. T'sais,
de quoi?
Les juges, là, sont ouais. tout le temps impartiaux. Parce que oui, quand tu fais apparence d'impartialité, c'est une chose, mais dans tes convictions profondes, tu as bien des influences. Au moins, elle, on le sait de quel bord elle est.
Oui.
Et puis, si jamais le jugement est défavorable, bien là, on va avoir un levier pour aller contester.
Oui, tu as raison, mais je vais te dire, moi, je trouve que cette affaire-là, là, tout ce dossier-là de la laïcité, là, c'est tellement délicat, Dominique.
Ah oui. Ben oui, c'est
la Cour le sait, ça, là. Il me semble que tu fais preuve davantage de retenue. Tu fais attention. Tu sais, tu y vas avec beaucoup, beaucoup de soin, puis beaucoup de respect, puis beaucoup de... Tu sais, tu dois y mettre la forme. Tu dois faire attention, justement, pour ne pas te faire accuser d'avoir déjà décidé avant même que la cause soit entendue.
Ah, mais là, ça me semble tellement clair et tellement gros que moindrement que le gouvernement va subir un revers, c'est clair qu'on va vouloir porter appel de la décision.
Oui, mais là, le problème, c'est qu'on est encore à plaider le sursis, là. On n'est même pas sur le fond des choses. Parce que là, mettons que la Cour d'appel là, rend une décision et elle dit, effectivement... l'obligation du visage à découvert puis l'interdiction de porter des signes religieux, c'est discriminatoire pour les femmes. OK, mettons. Pour les femmes musulmanes.
Ouais.
Bon. Et on suspend donc l'application de la loi. Cette partie-là de la loi, elle ne s'applique plus. Là, le gouvernement va contester ça, va porter ça en appel devant la Cour suprême.
Ouais, ça va être fait que
là, t'en as encore pour des mois.
Ouais.
Puis là, t'as pas commencé à plaider sur le fond des choses parce qu'une fois qu'on aura plaidé sur le sursis, sur la suspension, mettons, appelons ça comme ça, ou la demande d'injonction, après ça, il va falloir recommencer à plaider devant la Cour supérieure pour l'ensemble du projet de loi. On en a pour des années. Ce qui me fatigue dans tout ça, c'est que la clause dérogatoire est supposée exister pour permettre au Parlement d'affirmer leur souveraineté, d'affirmer la souveraineté parlementaire, la souveraineté des élus. Et là, si on commence à faire des trous dans la clause dérogatoire... Ça veut dire que... Qu'est-ce qu'elle veut... Tu sais, la clause dérogatoire, est-ce qu'elle sert à quelque chose? Est-ce qu'elle... Parce que je vous le rappelle, il n'y aurait pas eu de charte des droits et libertés dans la Constitution de 82 s'il n'y avait pas eu de clause dérogatoire. Les premiers ministres des provinces ont demandé la clause dérogatoire. C'était la condition pour qu'ils acceptent qu'une charte des droits soit inclue dans le rapatriement de la Constitution.
Oui.
Mais là, si avec le temps, la clause dérogatoire n'est plus utilisable pour ce pourquoi elle avait été prévue... Je veux dire, ça pose des maudites questions sur toute la légitimité des jugements.
Ben, en gros, c'est parce que là, les élus n'ont plus aucun pouvoir. C'est la Cour suprême qui décide tout, là.
Puis là, tu te retrouves dans une situation où c'est le gouvernement des élus, là. Tu sais, c'est plus les élus. C'est le gouvernement des juges, je veux dire. C'est plus le gouvernement des élus.
Exact.
Et le problème, c'est que les élus... c'est eux autres qui nous sont redevables.
Mm-hmm.
C'est pas les juges. Les juges, on vote pas pour les juges, nous autres, là. Si c'est les juges qui commencent à faire la loi au propre et au figuré, puis commencent à décider, dans le fond, à la place des élus, ce qui va être légal, puis de ce qui ne le sera pas, puis de ce qui est constitutionnel, puis de ce qui ne le sera pas. Puis je suis pas en train de plaider là, qu'on devrait mettre de côté la Constitution. Puis je suis pas en train de dire que la Charte des droits, même si elle nous a été rentrée dans la gorge, puis le Québec a jamais dit oui à ça, je suis pas en train de dire qu'on devrait pas en tenir compte. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut que les juges jouent leur rôle correctement et non seulement qu'il y ait impartialité, mais qu'il y ait aussi apparence d'impartialité, Dominique. C'est hyper important.
Oui.
Il faut que les gens qui nous écoutent aient le sentiment que les juges font leur travail correctement, avec intégrité, en respectant leur devoir d'impartialité et leur devoir de réserve, et qu'ils ne commencent pas à faire de la politique.
Non, c'est clair. Mais tu sais, c'est la même affaire que si un juge ou criminel avait commencé à commenter une cause avant même de la plaider, tu sais, puis de recevoir les plaidoyers de culpabilité et autres en disant, moi,
tu comprends?
Ce gars-là, alcool au volant, pas mal sûr qu'il est coupable. T'sais, c'est sûr que ça marche pas, là.
Mais non, ça peut pas marcher. Alors là, la plainte est déposée devant le Conseil canadien de la magistrature. dont est membre par ailleurs la juge, à titre de juge en chef de la Cour d'appel, elle est membre du Conseil canadien. Fait que là, on espère que le Conseil canadien, quand il va évaluer la plainte, va s'assurer qu'elle n'est pas juge et partie, mettons.
Ouais.
T'sais, il va falloir s'assurer d'une mécanique qui assure que la décision éventuelle de recevoir la plainte ou de la rejeter va être prise, encore une fois, d'une manière qui est impartiale puis qui respecte les règles du jeu. En tout cas, tout ça s'ajoute là à un dossier qui est très complexe et qui est très sensible. Et franchement, on n'avait pas besoin de ça.
L'autre dossier intéressant, c'est celui de Pierre-Carl Péladeau qu'on a vu toute la fin de semaine attaquer François Legault. Et quand PKP veut quelque chose, il attaque.
Oui. Et là, il attaque fort. Là, il a déposé un statut Facebook... Donc, sur son Facebook...
Hey, d'ailleurs, là, quelle c'est ironie, hein? Tu sais, il est propriétaire d'une entreprise de presse et de journaux qui se plaint de Google, de Facebook, de la perte de revenus publicitaires. Puis quand il y a eu une annonce à faire, il a fait sur Facebook.
Oui, il utilise beaucoup Facebook. Ça fait des années qu'il écrit sur Facebook. Ses prises de position les plus tranchées sont souvent sur Facebook. Et là, il prend la plume, donc, pour littéralement charger le premier ministre et son ministre de l'Économie. Il les accuse d'avoir lancé une opération de tardage de bras, d'intimidation envers Desjardins là, pour obliger Desjardins à financer l'opération de sauvetage des journaux. Là, il dit qu'il faudrait que le premier ministre puis le ministre de l'Économie, Fitzgibbon, refassent leur devoir, reconsidèrent la proposition que Québécois avait faite au tout début du processus, donc de sauver les journaux de Capital Média, y compris le quotidien. Il dit que Québécois, c'est la seule entreprise à offrir un modèle d'affaires qui permettrait la rentabilité des journaux de Groupe Capital Média. Là, il dit combien François Legault est-il prêt à mettre d'argent des contribuables? Est-ce qu'il se pense plus smart que l'industrie qui voit les fusions de groupes médias se multiplier? Il dit « Laissez de côté votre orgueil, cette partie de bras de fer, monsieur le premier ministre, etc. et prenez la juste mesure pour protéger, les justes mesures pour protéger l'information régionale et nationale. » Écoute bien, c'est sûr qu'à Québec, là, ils vont pas reconsidérer leur attitude puis leur position. Tu sais, comme me disait quelqu'un hier, il me disait « Écoute, ils nous rendent dedans. Puis après, il nous demande de reconsidérer son offre.
Ben oui.
Il dit, si je t'envoie chier, puis après ça, je te demande d'aller prendre un verre avec moi, ça va-tu te tenter?
Non.
Non. Quand tu lui parles off the record, ils vont dire PKP est libre d'exprimer ses opinions, mais nous, au gouvernement, on croit à la diversité des médias. Fin de citation.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, eux autres, là, dans le fond, ce qu'ils disent, là, au sein du gouvernement Legault, ce qu'ils disent, c'est, garde, là, on n'est pas prêts à accepter la fermeture de plus de la moitié des quotidiens au Québec. Oublions ça, on veut pas se retrouver juste avec les deux journaux de Québécois, Journal de Québec, Journal de Montréal, La Presse puis Le Devoir, trois journaux basés à Montréal, un autre basé à Québec, puis plus un journal dans les régions. On n'est pas prêts à aller là. C'est ça, la position du gouvernement Legault. Et puis, évidemment, ben ce que ça veut dire qu'à court terme, à tout le moins à court terme, on va être obligé de mettre de l'argent là-dedans.
Il n'y a pas rien que ça.
C'est ça.
Hein? Hey, mais François Legault peut techniquement pas laisser Pierre-Carl Péladeau acheter les autres hebdos de région. Imagines-tu le poids politique que ça lui donne, sachant que ce gars-là est un péquiste, qui peut revenir à la tête du PQ n'importe quand, s'il contrôle l'ensemble de la presse québécoise, là? Tu sais, à partir du moment où il décide de critiquer le gouvernement Legault puis de le faire tomber dans l'opinion publique, là, puis appuyé par une firme de sondage, là, c'est dangereux.
Ça lui donne un pouvoir très, très, très important et c'est bien certain que le gouvernement Legault veut pas aller là. Puis moi, honnêtement, je les comprends.
Ben oui.
Puis je dis pas que Pierre-Carl Péladeau amène pas des bons arguments. Quand Pierre-Carl Péladeau parle du fait qu'il va falloir pomper de l'argent public là-dedans, il a raison. Quand il pose la question de la rentabilité, il a raison. Moi, je pense que dans les premières années, ça sera pas rentable, la coopérative. J'en suis absolument convaincu. J'espère qu'avec le temps, ça va le devenir. Puis ça, évidemment, ça va appartenir beaucoup aux membres de la coopérative, aux journalistes et aux autres. Je pense qu'il va falloir, à un moment donné, qu'il soit rentable. Parce que moi, je pense que il y a beaucoup de citoyens, Dominique, je sais pas si tu l'as déjà testé, mais il y a beaucoup de citoyens qui sont pas d'accord avec l'idée de mettre des fonds publics pour sauver les journaux.
Ouais.
Mais il y en a quand même pas mal qui sont d'accord. Mais cette portion-là des gens qui sont d'accord, je pense pas que si on leur disait, mettons, êtes-vous prête à financer pendant 10, 15, 20 ans des journaux,
non,
pas sûr qu'ils seraient d'accord.
Non, ça va être
Ouais. Alors, à court terme, je pense qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui nous écoutent, qui sont prêts à dire, bon, ben garde, on va les aider à faire la transition, on va les aider on va contribuer à leur sauvetage, mais il faut qu'ils se prennent en main puis éventuellement qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes.
Oui.
Bon. Puis ça, c'est ma position aussi. Moi, je pense qu'il faut leur donner une chance, puis il faut, oui, être prêt à apporter une aide publique. De la même manière qu'on apporte une aide publique pour d'autres projets, dans d'autres secteurs, puis on donne de l'argent public pour les émissions de télé, puis pour les documentaires, puis les films, tu veux dire, tous les crédits d'impôt qui sont donnés pour les salaires dans le domaine de la culture. Puis pour les productions dans le domaine de la culture, je veux dire, c'est de l'aide publique. Pourquoi on le fait? Ben parce que c'est important pour notre vie collective, parce ouais. qu'on sait qu'on est un peuple de 8 millions de francophones, puis à un moment donné, il faut appuyer les créateurs, puis tout ça. Moi, je pense que pour la démocratie, c'est important qu'on ait des journaux régionaux. Mais c'est vrai que ça va nous coûter des sous.
Ben oui, mais tu sais, puis les deux ont raison, tu sais. Puis tu l'as bien exprimé, là, quand PKP dit ils font tout pour pas que j'achète ces journaux-là, effectivement, probablement qu'il a raison, mais ils ont raison de faire ça aussi.
C'est un vrai débat, là, tu sais, c'est un vrai débat, parce que est-ce qu'on veut vivre dans... Tu sais, j'ai eu cet argument-là avec Martin la dernière fois, tu sais, est-ce qu'on veut vivre dans un Québec où il nous reste juste le Journal de Québec, le Journal de Montréal... Peut-être la presse et peut-être le devoir, parce que la presse, c'est fragile, puis le devoir, c'est fragile. Tu sais, on veut-tu se retrouver dans un monde, dans quelques années, où les seuls journaux qui sont publiés au Québec sont les journaux de Québécois, avec en plus le pouvoir de TVA, qui reste la télévision généraliste la plus écoutée?
Ouais. Mais
c'est une vraie... Tu sais, sur le plan de la démocratie, là, c'est un vrai, vrai débat, là, Dominique, qu'on a. Là.
Mais j'aimerais bien que Legault fasse une sortie, là. Tu sais, une sortie à la François Legault qui puisse dire, j'aime bien que Pierre-Carl Péladeau vienne me demander des subventions pour lutter contre le GAFA et qu'il passe ses messages via le GAFA. C'est bien, c'est correct.
Mais je sens pas que Legault et la CAQ veulent déclarer la guerre à Pierre-Carl Péladeau. Parce que honnêtement, Dominique, là, tu sais, on a beau dire, il y a un mur de Chine entre la propriété des journaux et l'orientation éditoriale, puis la couverture médiatique. Bon, moi, je suis pas capable de te prouver qu'il n'y en a pas, mais le fait est qu'il est propriétaire déjà de plusieurs médias d'information et que ça lui donne un pouvoir considérable. Et mets-toi à la place de n'importe lequel gouvernement, pas juste le gouvernement de la CAQ, n'importe lequel gouvernement, ça peut devenir fatigant à un moment donné quand tu as Pierre-Carl Péladeau qui te mène une guerre d'usure, tu sais, dans les prises de position, puis dans les Facebook qu'il publie, puis tout le reste. Tu sais, à un moment donné, c'est un gros morceau, là, Pierre-Carl Péladeau, là,
ouais.
Tu sais, quand tu étais au gouvernement, là. Alors, moi, ce que je sens, c'est que le gouvernement veut pas en rajouter. Ils veulent pas jeter de l'huile sur le feu, mais ils vont pas lui donner ce qu'il veut.
Absolument.
Ce qu'il veut, c'est de pouvoir acheter les journaux. Pas compliqué. Il voudrait racheter le quotidien, puis il voudrait racheter tous les journaux de groupe Capital Média. Parce qu'il dit, regarde bien, moi, avec la structure de propriété que j'ai, avec mes imprimeries et avec mon réseau de distribution, je serais capable de rentabiliser ça. Mais à quel prix?
Dossier à suivre. Merci beaucoup.
Hey, je vous souhaite une bonne journée, tout le monde.
Salut Bernard, on se reparle. 8h36.